Voilà. Et si vous baissez comme ça, il vous suit aussi. Et après, on bouge comme ça, il vous suit. Et donc, j'ai besoin de deux volontaires. Voilà, Annette. Ça, c'est bien. Et donc, voilà. Premièrement, est-ce que tu le vois, là?
Oui, je le vois.
Est-ce qu'il te suit quand tu bouges la tête?
Je peux être très spirituel, sinon ça marche
pas. Non, c'est rien à faire avec la spiritualité. Il vous suit. Il vous suit. Si vous allez un peu dans ce sens-là, est-ce qu'il continue de suivre? D'accord. Et donc, Rémi, vous venez ici. Rémi, venez ici. Et donc là, vous venez avec moi jusqu'ici. Il vous suit toujours?
Mais c'est un fou, il vous suit.
Okay. Même avec deux yeux, il vous suit. Hein. Il vous suit toujours?
Il me suit.
Et donc, Annette, est-ce qu'il vous regarde là? Il te regarde. Mais il te regarde aussi? Attends, arrête. Comment est-ce que c'est possible qu'il regarde Rémi et il regarde Annette en même temps? Mais comment est-ce que c'est possible? Mais comment est-ce que c'est possible? Hein? Mais c'est incroyable, hein? Est-ce que tout le monde voit qu'il bouge? Et donc là, ça montre qu'on peut voir des choses de perspectives différentes, qu'on peut voir la même chose là que la même chose là, n'est-ce pas? Et donc, n'ayez pas peur. Bon, même si ça va un peu plus près là, je vais vous choquer là. C'est encore terrible. Mais bon, c'est pas la magie, hein. C'est plat. C'est vraiment plat, mais c'est creux. C'est une tête creuse. D'accord? Et parce que notre cerveau n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça, tu sais, on n'a pas l'habitude de voir les têtes creuses, et donc ça envoie un signal à notre cerveau, et c'est, ça donne l'impression que ça bouge. Mais il n'y a rien de magie là-dedans, hein, je vous assure. Hein. Mais j'ai emmené ça chez les pygmées une fois, pour montrer à mes amis pygmées qui vivent dans une culture très animiste, et ils croyaient vraiment à la magie noire. Hein. Et même quand j'ai expliqué, je dis non, c'est plié comme ça. Il dit non, c'est toujours la magie. Et donc, mais pour vous, hein, vous pouvez rentrer chez vous, sachant que c'est un monsieur qui s'appelle Gardner qui a inventé ça. Mais c'est exceptionnel. Mais pourquoi est-ce que j'ai montré ça ce matin? Hein, on peut le laisser, hein, il vous regarde, il veille sur la Sainte Seine, hein, c'est bien. Et quel blasphème, hein, pardonne-moi. Hein. Mais si j'ai montré ça, c'est pour illustrer que les gens, ils voient toujours les choses différemment. Pour vous, vous pensez, ah, il me regarde. Mais l'autre qui est à l'autre côté, il dit, non, mais il me regarde. Mais c'est-à-dire qu'il y a des perspectives très différentes d'aborder la même réalité. Si vous comprenez ça, ça va vous aider. Parce que dans une église ou dans une société, les gens, ils voient la même chose, mais d'une manière très différente. Il y a certaines personnes, ils vont voir une situation, ils vont aborder ça d'une manière très, très pastorale. Ils vont voir, oh, vraiment leur cœur, ils ont une capacité de pasteur, ils ont cette valeur, et ils vont vraiment, tout en eux est pastoral. Mais il y a d'autres, ils voient la même situation, mais ils ont une autre perspective, ils sont plus un peu missionnaires, apostoliques. Et eux, ils sont, oh, mais ils vont avoir un autre regard sur la même situation. Et donc, les deux personnes là, ça peut créer une énorme dispute, quelquefois. Ça peut créer des tensions pas possibles, parce que moi, je vois noir et lui, il voit blanc. Mais on voit la même chose. Et après, non, mais c'est moi qui ai la vérité. Regarde, la Bible dit ça. Oh non, c'est moi qui ai la vérité. La Bible dit ceci. Et on cite les mêmes vérités pour, mais la question, c'est juste accepter qu'on voit des choses quelquefois d'une autre manière. Et ça, c'est la beauté d'une église, c'est qu'on puisse avoir des ministères. Comme il dit, on n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous évangélistes, on n'est pas tous apôtres, on n'est pas tous prophètes, mais que tout le monde puisse considérer, peut-être l'autre personne voit ça d'une autre manière que moi. Et que Dieu nous donne des yeux pour avoir une perspective très élargie. Et donc ce matin, je veux parler de perspective de foi, un peu ce que Florian nous disait le week-end dernier, parler de la foi, comment on va voir l'avenir, quelle perspective porter sur l'avenir. Mais je vais aussi lier ça à ce que j'enseignais il y a, je sais pas, quelques semaines sur les trois prières. Parce que je suis en train de, bon, si vous m'invitez encore, si j'ai l'opportunité encore de prêcher, je vais continuer cette même prêche, hein. Et donc, c'est juste la première partie encore, ça serait sur Au Secours. Mais, voilà. Perspective, foi, prière. Et maintenant, je vais vous ramener à l'école de nouveau, hein. Désolé, hein. Parce que je vais, j'espère que ça va tenir. Voilà, ça va, ça va, ça va. J'arriverai à la Bible, hein. N'ayez pas peur, hein. Pour ceux qui aiment beaucoup la Bible, j'arriverai. C'est pas juste les dragons et des tableaux blancs. Mais encore là, je pense que vous aurez de la peine ici. Mais bon, ça, c'est, il faut bouger si vous voulez voir. Ça va? Et donc, voilà. Ici, c'est quoi? C'est un œil. Hein? C'est comment on peut regarder des choses. Et ici, il y a une ligne. Donc ici, j'ai mes trois prières. Help. Oh, au secours. comment? Et viens. Vous vous souvenez là, c'est des trois prières. Et ça, c'est des trois prières qui sont toujours avec nous. Au secours, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais, quand nous prions, ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas juste des, voilà, j'ai appris cette prière et c'est comme une sorte de formule magique que j'utilise. C'est l'esprit derrière. Et même quand les gens parlent, même quand, chaque parole véhicule un esprit. Même quand vous êtes juste là en achetant votre pain, les gens parlent et leurs paroles véhiculent un esprit. Et c'est pas juste de dire la vérité. Voilà, noir et blanc, telle et telle parole avec telle et telle grammaire. Mais c'est, est-ce qu'il y a un esprit de vérité derrière ça? Qu'est-ce que c'est l'esprit derrière mes paroles? Et quand on dit prière, on dit, oh mais si je prie dans l'église, ça doit être super sanctifié chaque fois. Ah mais peut-être. Peut-être, parce que on va voir comment les gens ont prié dans la Bible, comment les disciples surtout, qui apprenaient à prier, comment ils ont prié leur Seigneur. Et on va voir l'esprit qui était derrière leur prière. Et donc, quand vous avez ces trois choses-là, disons on va commencer avec au secours aujourd'hui, parce que ça, souvent on commence là, c'est là où je commence ma prière. Je vois, souvent quand je vois un énorme besoin, hein, besoin, ah! Seigneur, au secours! Et après, je dis, oh, mais c'est dur, Seigneur, c'est dur. Peut-être que j'ai mal à la tête ce matin, Seigneur, c'est dur. Oh, Seigneur, guéris ma mal à la tête. Oh, j'espère que c'est pas pire qu'un mal à la tête, Seigneur. J'espère que c'est pas une tumeur, Seigneur. Et quelquefois, on peut, le besoin peut nous tirer vers le bas. Attention. Quelquefois, on peut être dans une réunion de prière où il y a trop de besoins. Où on remplit, on a une perspective besoin, besoin, besoin. C'est légitime d'un côté, je critique pas ça. Mais ça dépend jusqu'où ça va nous emmener. C'est très important de voir quelle direction ça va nous emmener. Ou on peut avoir une autre perspective, là, avec au secours. Et c'est une perspective, je dirais, avec toi, paix. Je dirais puissance. Parole et persévérance. Et tout ça, c'est toi, paix, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Et donc ça semble être évident, n'est-ce pas? Ça semble être évident. Parce qu'on dit, voilà, on veut toujours qu'on prie, voilà, tirer notre regard vers Jésus. Je veux voir sa puissance. Je veux voir la parole qui est la porte. Et je veux persévérer. Persévérer, ça veut dire je persévère dans la réalité du royaume et pas dans la réalité des circonstances de ce monde. Parce qu'on n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore au ciel. Et on est dans le déjà pas encore, comme les théologiens disent. C'est pas encore la perfection. J'ai toujours mal aux dents de temps en temps. Hein, j'ai toujours des trucs qui m'énervent. Mais chaque fois, au secours Seigneur, j'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. Et après, je peux faire un club des gens qui ont mal aux dents. Et on va tous dire, oh, moi, c'est mon dent. On va examiner notre besoin, notre malheur. On va tourner en rang autour de tout ce qui va pas. Et on va devenir des spécialistes des maux de dents. Mais peut-être quelqu'un peut dire, est-ce qu'on peut traverser cette ligne de besoin? Traverser-la. Est-ce qu'il y a une parole? Est-ce que quelqu'un a une parole par rapport à ma souffrance? Est-ce que quelqu'un a une parole? Est-ce que quelqu'un a jamais été guéri de ce que je... Ah oui, une fois. Est-ce qu'on ose imposer les mains et prier? Et d'un côté, tout d'un coup, au lieu d'être focalisé sur le besoin, on est focalisé sur une parole et une puissance. Et il faut persévérer dans cette parole. Parce que c'est pas instantané comme le café, souvent. Il faut persévérer dans une parole. Et quelquefois, moi, je vais être honnête avec vous. Je suis pas en train de dire, voilà, ça marche à tous les coups, je vais vous donner ça, et après, chaque fois que quelqu'un est malade, chaque fois qu'il y a un besoin, on crie au secours avec un esprit de foi. Et voilà, tout va marcher. Moi, j'ai prié pour les gens, même les amis qui avaient le cancer. Et je priais, je cherchais la puissance de Dieu, je cherchais la parole, et je persévérais, même quand ils devenaient de plus en plus maigres, ils perdaient leurs cheveux avec le chiméo, et on était là, dans la foi pour, et ces personnes sont mortes. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, oh, mais on a loupé, voilà. Non, j'ai dit, vivre c'est Christ, mourir c'est un gain. Parce que là, même de persévérer au-delà de l'échec, parce qu'il faut pas non plus baisser le niveau, de ce que Dieu nous a promis, qui est la vie éternelle dans sa présence. Et moi, j'ai aussi prié pour les gens qui étaient guéris. J'ai aussi prié pour les gens où des circonstances, ça a été complètement transformé, parce qu'on avait une parole, on avait une puissance, on avait persévéré dans la foi. Et donc ici, il y a une ligne là. Et cette ligne là, c'est la ligne des besoins. Et si vous voulez vraiment prier au secours comme il faut pas rester ce côté tout le temps. Parce qu'il y a des réunions de prière où ça reste toujours là. Et c'est lourd, honnêtement. Ça devient lourd. Et aussi, ça se focalise sur les solutions humaines. Même si les gens ne le disent pas. Hein, ça se focalise sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour régler cette situation. Et ça s'appelle religion, tout ça. C'est des mots, c'est Christ qui est toujours crucifié, souffrante, qui n'est jamais ressuscité. Il n'y a jamais le moindre onction du Saint-Esprit. Il n'y a pas le surnaturel, il n'y a pas le divin. Et donc, il faut faire attention. Et même pour nous, moi, j'ai l'habitude d'encourager. Moi, je commence souvent là. Hein. On commence avec un besoin. Et je suis submergé par mes besoins. Et depuis, c'est pas 30 ans maintenant, je dirige des réunions de prière. Et je sais que si je commence une réunion de prière, et je dis, mais qui a des besoins? Que je peux vous garantir que ça va commencer là, et ça peut devenir très lourd, honnêtement. Parce que je vais me coltiner tous les maux du monde. Et ça serait mieux de commencer la réunion en disant, est-ce que les gens ont une parole aujourd'hui? Et de se focaliser sur Jésus-Christ. Et si il vous demande de prier pour une maladie, c'est parce qu'il va vous encourager à persévérer et avoir la victoire. Même si, comme je dis, je donne pas des solutions magiques à tous les coups. Mais au moins, vous allez créer une atmosphère beaucoup plus ouverte. Ici, c'est beaucoup plus léger, plus vous montez. Quand vous percez cette ligne de besoin dans la prière, c'est beaucoup plus léger. Et donc, quelquefois, je fais des petites images. Ici, c'est pour ceux qui font de l'astronomie parmi nous, les physiciens. Et ici, j'appelle ça souvent le trou noir. Tu vois, quelquefois, plus tu es dedans, ça suce toute la gravité. Ça devient un point de concentration, de besoin énorme. Et même les missionnaires sont les pires quelquefois. Moi, je vais dans une réunion missionnaire et pour prier après, c'est affreux. Parce que vous n'avez pas juste vos propres besoins, mais vous avez les besoins du monde. Le gars, vous jetez toutes les misères de l'Afrique, toutes les misères de l'Asie, toutes les misères... Après, on va prier. On est tellement submergé. On est dans un trou noir. Et donc, on va dire des paroles, mais paf, ça ne perce pas la ligne des besoins. Mais bon, ici, il y a une autre image, c'est une supernova. Et ça s'explose, ça crée des galaxies nouvelles. Et donc c'est ça que, bon, il faut être, pour moi, j'aime des réunions de prière plus supernova que trou noir. D'accord? C'est comme, et je pense que quoi les gens, il y a une sorte de paradoxe dans les réunions de prière. Moi, il faut prier. Mais moi, j'aime pas des réunions de prière où ça me maudit, quoi. Je suis désolé. Mais quelquefois, on arrive avec une petite besoin et on sort avec un grand besoin. Parce que personne vous a donné la solution. On a tourné autour du pot. On a tourné autour des besoins. Mais on commence ici et quelquefois on dit, mais Seigneur, où est la puissance? Où est la parole? Où est la persévérance? Et donc, ce qu'il nous faut, finalement, pour bien prier, cette prière, c'est une relation. C'est une relation avec Jésus. C'est l'intimité. La prière ne commence pas avec le besoin. La prière commence avec l'intimité. Car si vous oubliez tout le reste, c'est ça l'essentiel. Et je dirais, bon, si je suis un peu méchant maintenant, hein, ici, c'est quoi là? Je vais vous dire ça après. Un petit rond. Et plus vous allez vers les besoins, plus vous allez diminuer votre vision et votre optique. Et plus vous allez, quand vous traversez la ligne du besoin, vous allez vers les largeurs, vers un horizon élargi. Et cet horizon élargi, ça vous emmène à quelque chose de beaucoup plus grand là. Et donc là, on peut voir les continents. Hein. Ça va jusqu'au monde. Il a tout le monde dans ses bras, on dit. The gospel, he's got the whole world in his hands. Mais ici, c'est quoi? C'est le nombril. Soit vous tournez autour du nombril, ou soit vous allez élargir votre vision vers un Dieu qui peut sauver le monde, y compris Wavrin, y compris le village, y compris tout. Et donc, pour moi, quand je prie au secours, help, bien sûr, souvent je commence là. Et nous commençons tous là. Et je pense que l'ennemi veut nous garder encore plus là. Mais il faut percer la ligne du besoin. Que mon au secours n'est pas un cri de crainte ou d'incrédulité. Mais ça devient un appel vers l'intimité avec Jésus. Qui a la parole, la puissance, la solution et la persévérance. Allez, on va voir un petit passage dans la Bible pour illustrer tout ça. Et donc c'est Matthieu 8, 23. C'est la tempête apaisée. Hein. Et donc c'est juste trois versets. Hein. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Il nous embarque, quoi. Dans quelle galère tu nous embarques, Jésus? On est dans la barque, il nous a embarqués avec lui. Et donc, quand tu commences, quand Jésus t'embarque, est-ce que après la vie, il y a une longue fleuve tranquille? Voilà, je suis devenu chrétien, alléluia! La vie est facile maintenant. Oh, mais ça, c'est vrai d'un certain côté. Mais bon. On retourne à notre petit ami de la jungle. On a toujours deux perspectives sur cette question. Bien sûr, ma vie est une longue fleuve tranquille. Mais quand tu es dans la barque avec Jésus, tu vas tout droit vers les tempêtes. Tu vas tout droit vers les tempêtes. Hein? Alors, il s'éleva sur la mer où une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Donc là, c'est très réel. Ça, un besoin, il y en a. Hein? Et donc là, on peut, au lieu de marquer besoin, on peut voir là, les yeux là, tout d'un coup, voient des vagues. Quelles sont vos vagues ce matin? Hein? Qui sont là pour vous submerger, pour vous couler, pour couler votre vie, pour couler votre relation avec Jésus-Christ. Là, il y a des vagues. Et là, les disciples, ils ne voyaient que des vagues. C'est ça leur problème. Et ils ne voyaient que des vagues. Et donc, même la barque commence à être remplie par des vagues. Et Jésus, mince, ce Jésus, il fait quelque chose de scandaleux. Il fait quelque chose de scandaleux, il scandalise. Et nous serons scandalisés. Il n'est pas en train de dire, voilà, j'ai la soupe. Monsieur, l'homme pour toute occasion, là, en train de régler les problèmes du monde. Il est en train de dormir. En train de dormir. Quand le monde est en train de périr. Mais Jésus, allez, un coup de pied, Jésus. Tu dois avoir des besoins. Tu dois avoir des besoins. Il dort. Devant des vagues. C'est pas normal, ça. Mais Dieu nous appelle à une vie qui n'est pas normale. À une perspective qui est autre que la perspective de ce monde. Chaque fois que tu allumes la télé, tu vois des vagues. Et ça nous submerge. Qui est capable? Les barques de toutes les familles, de toutes nos barques se remplissent de vagues. Parce qu'on vous jette que le besoin. Est-ce qu'on vous donne comment passer cette ligne? Est-ce que, aux actualités, les politiciens, ils vous remplissent votre bague, votre cœur de vagues? Quelles sont vos vagues ce matin? Et donc, bien sûr, il dort. Verset 25. Les disciples, c'est leur réunion de prière, hein, c'est un peu vite fait, mais comme nous. Une prière de panique. Hein, je connais cette prière. Hein. Les disciples s'approchèrent de lui. C'est comme nous, hein, on s'approche de Jésus. Et il commence bien, « Seigneur, voilà, c'est une prière. Voilà, Seigneur, sauve-nous, au secours, sauve-moi. » Et ça, c'est la prière que vous entendez 90% du temps dans chaque réunion de prière. Sauve-moi, sauve-nous, guéris-nous, guéris-moi, guéris-nous, sauve-moi, guéris-nous, moi, jusqu'au nombril, allez, on a gagné. Mais on est tellement centré sur nous-mêmes quelquefois. C'est pas forcément mauvais parce que Jésus nous aime, mais laisse-moi arriver à la vraie solution. Pas la solution panique. Jésus dort. Est-ce qu'il est tellement dur, ce Jésus? Il s'en fout de tout le monde? Il est tellement mystique dans son nuage. Non! Mais il y a un processus. Et Jésus, il n'entend qu'une voix. Il veut autre chose que la prière de panique. C'est dur à dire. Hein? Moi, j'ai dû apprendre ça. Je ne vais pas forcément... Bon, il est gentil, hein? Il est gracieux parce qu'il se réveille quand même. Mais il corrige et il enseigne. Et est-ce que nous, on est d'accord d'être enseignés? Parce que regarde... Sauve-nous. Et après, ils sont merveilleusement prophétiques. Ils sont des prophètes, mais négatifs. Parce qu'il dit, nous périssons. Mais je veux signaler qu'ils sont pas encore morts, là. Les vagues sont en train de remplir la barque, mais ils sont pas morts. Et en grec, là, ce verbe peut être traduit de deux manières. On dit, c'est la voix au milieu, en grec. Et donc, ça veut dire que, on peut dire, nous allons périr, nous allons mourir. En anglais, on traduit ça, we're going to drown, nous allons mourir. En français, ils choisissent l'autre option de traduction, nous périssons. Nous mourons, nous périssons. Et le mot là, c'est nous allons vraiment à la destruction. Et donc d'un côté, je dis, mais bravo les apôtres là, vous avez ajouté une bonne couche là. Parce que là, il y a les vagues, mais vous avez déjà vu la destruction totale. Nous allons mourir. Et donc attention à ces prières prophétiques qui empirent la situation. Moi, j'ai, sans dire des noms, mais j'ai été dans des églises. Moi, j'ai été dans, et une fois, tragiquement, il y avait un moment, bon, je sais pas même si je dois le dire, mais c'est, je l'ai tellement senti dans mon esprit que les gens y priaient pour des, un maman qui, il y avait deux mamans qui avaient des bébés, là, et les mamans avaient un peu peur pour les grossesses. Mais les gens ont prié, juste pour la grossesse, voilà, Seigneur béni. Et quelqu'un a prié que cet enfant soit pas né déformé. Mais d'un côté, j'ai dit, bon, mais un besoin, tu pries, et quelqu'un prie. Et malheureusement, l'enfant était déformé. Et même j'étais dans cette église, et quand j'ai entendu cette prière, quelque chose en moi fait, bah, feu rouge. Et j'ai prié contre ça, et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, attention. J'ai dit, moi, je veux prier. Oh non, mais les gens pensaient que j'étais trop spirituel. Et après, j'ai appris que cette femme a accouché, qui était normale, mais il y avait un grand problème. Et donc, attention de ne pas empirer des situations. De ne pas prendre une petite bonne idée et de, voilà, il y a des vagues, mais on n'est pas encore mort, quoi. Il y a des vagues, mais on n'est pas mort. Et il faut éviter les tendances de maudire les gens par les prières négatives. Et si ça vous arrive, parce que quelquefois ça va vous arriver, moi je pense que c'est plus courant qu'on ne croit, que même les gens bien intentionnés, c'est pas leur faute, hein, il faut pas blâmer les gens, c'est, tu sais, les mouches volent, hein, les mouches volent. Mais si vous êtes victime d'une prière négative, faut le refuser tout de suite, hein, faut pas le laisser en vous. Si vous sentez, attention, cette prière, ça va où, là? Il faut pas juste dire que parce que vous êtes dans une église, bon, peut-être que je brise les illusions, hein, pardonne-moi. Mais quelquefois, ça nous colle à la peau. Et moi, je dis, wow, fou, nettoyage, tac. Mais moi, je marche avec ça. Mais je vous encourage aussi de marcher avec ce discernement. Il ne faut pas empirer la situation. Tu sais, des vagues, ils sont allés vers la mort. Tu vois, il y a un esprit de mort, quelquefois, dans la religion, dans les prières religieuses et tépides et négatives, remplies de besoins. Il y a un esprit de mort. Et Dieu ne répond pas aux prières qui sont imbibées d'un esprit de mort. Il n'y a que Satan qui a un accès avec cet esprit. Donc là, on est des supernovas, on n'est pas des trous noirs. Donc c'est pour ça que quelquefois les gens n'aiment pas des réunions trous noirs, parce que bah, il y a un esprit de mort. Il faut casser cet esprit. Aller vers l'esprit de vie. Et donc voilà, nous périssons. Et donc Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Oh, merci d'avoir prié. Oh, je suis tellement content que tu as prié. Ah, c'est bien, ces prières de panique. Qu'est-ce qu'il dit Jésus après? Non. Il se réveille, il dit ceci. Il leur dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Il dit, c'est ça l'esprit derrière votre prière là. Vous êtes liés par un esprit de peur. Est-ce que nos prières, quelquefois, sont, est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est une prière de panique, superstitieux, la peur? Mais ça, Jésus ne peut pas répondre à ça. La peur n'est pas l'esprit qui doit animer nos prières. Il dit, pourquoi avez-vous si peur? Tu vois, Jésus, il entend au-delà des paroles. Et ici, tu as la peur. Et après, il dit une autre chose. Jean, de peu de foi. Et le mot là, oligos, ça veut dire très petit. Oligos, pistis, peu de foi. Et j'ai dit, non, mais c'est ça le vrai nerf de la guerre. Jean de peu de foi. Je dis, ah, mais il ne faut pas rester là. Parce qu'il y a les gens qui disent, ah, oh, mais Seigneur, je suis une personne avec peu de foi. Mais il ne faut pas écrire ça dans le rocher. C'est déjà pour rencontrer Jésus et de croire à la résurrection, vous avez beaucoup de foi. Vous commencez déjà avec beaucoup, d'accord? Faut pas perdre ça par la religion après. Faut pas prendre une petite fausse robe d'humilité. Oh, j'ai une grande petite foi. Mais mince, non! Il faut pas! On est des gens de grande foi. Vous êtes à Wavrin ce matin. Tu crois à la résurrection de Jésus-Christ? Il est vivant. Et donc, s'il n'est pas vivant, bon, mais je suis ici, mais moi, je suis dans le supernova. Et donc, là, il ne faut pas imaginer qu'il faut être un grand apôtre, d'avoir fait de grandes choses pour avoir beaucoup de foi, et moi je suis qu'un petit minable qui n'a pas la foi. Mensonge ! Mensonge ! Si vous croyez en Jésus-Christ, passez par des eaux de baptême, quel appât de foi de géant ! Incroyable ! Tu témoins devant tout le monde ! Et donc, on n'est pas, on n'a pas juste à voir cette petite prière de panique, oh, comme si on a des petites brebis devant le grand loup de ce monde, et on est un peu fou. C'est trop, on croit la propagande de Satan, là. Donc, il faut traverser cette ligne. Je vais pas être prisonnier de cette ligne de besoin. J'en ai peu de foi. Pourquoi vous avez si peur? Et après, il donne l'exemple, il dit, voilà, regarde. Alors, il se leva. Et c'est là où il traverse cette ligne. Il se leva. Allez, il faut se lever. Chaque jour, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu ouvres ta Bible, il se leva, il traverse cette ligne. Menaça les vents et la mer. Et un grand calme se fit. Alléluia. Un grand calme se fit. Vous savez, le mot pour calme en grec, c'est galène. Et donc, parce que c'est moi, vous pouvez choisir, soit ici, vous avez la galère. Hein, ça vous mène à la galère. Les prières de panique et tout ça. Donc, soit vous avez la galère, vous avez la galène. Moi, je veux choisir la galène, d'imposer au nom de Jésus la paix sur ses besoins, de menacer tous ces vents de crainte, toutes ces vagues d'incrédulité qui veulent me submerger. Parce que c'est ça notre part ici, de ne pas laisser votre cœur être submergé ni par la crainte, ni par l'incrédulité. Parce que ce sont des mensonges. C'est porter une fausse identité. C'est les gens du monde qui portent cette identité. Ils sont toujours dans la crainte et l'incrédulité. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans le besoin. Mais nous, on a autre chose. On a une relation avec Jésus-Christ. On a une relation, on a une galène que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est la base. Si on n'arrive pas à capter ça, on va passer des années à galérer. La vie chrétienne n'est pas une vie de galère, c'est une vie de galène, c'est une vie de paix. Mais il faut traverser, il faut se lever. Et on n'est pas Jésus, mais on a l'Esprit de Jésus en nous. Le Saint-Esprit veut se lever en nous pour, voilà, imposer le calme, exercer un peu d'autorité. Est-ce que je vais être parfait quelquefois? Peut-être que je vais faire la ligne comme ça. D'accord, peut-être c'est comme ça au début, mais allez, commence à vivre ici. Commence à apprendre à vivre ici. Et vous allez voir la différence que ça fait à votre vie de prière. Et après, pour terminer là. Ah, plein d'admiration. Ces hommes se disaient, ah, ils posent de bonnes questions là, mais quel est celui-ci? Qui est ce Jésus quand même? Il est merveilleux. C'est une question qui les pousse vers cette relation. Qui est celui-ci qui s'en fout des besoins? Qui est celui-ci qui est tellement dans la puissance, qui est tellement dans la parole, qui est tellement dans la persévérance de son royaume face à Satan, même face à la contradiction de la croix, même quand Jésus était crucifié? Il était sur cette croix comme un roi sur le trône. Il n'était pas là comme un vaincu. Il était là comme un roi sur le trône. Parce qu'au cœur du trône, il y a un agneau immolé, mais il y a aussi un grand agneau, un lion de Juda. Et il n'était pas là, il était là tout le temps. Tout le temps. Même, il persévérait au travers de la contradiction. Et pour nous, je vous garantis que quelquefois vous devez vivre dans la persévérance. C'est pas juste, paf, coup de bâton comme Jésus, là, c'est super, voilà. Instantané. Mais il est Jésus, sans péché, sans lutte. Nous, on est un peu plus charnel. Mais quand même, vie de disciple, sanctification, avancée de gloire en gloire avec le Seigneur. Avancez, avancez, avancez. Et c'est comme là que vous avancez. Un grand pas, c'est de percer la ligne de besoin. Et ça, c'est une question de perspective. Et donc, il faut apprendre à connaître qui est celui-ci. Est-ce que je connais celui-ci qui donne des ordres à la mer et au vent? Parce que ça, c'est notre Seigneur. Et là, hier, bon, je ne pouvais pas être au gospel, j'aurais aimé être ici, mais j'étais au concert de ma fille. Elle faisait un concert avec, elle fait partie d'un orchestre à Ostricourt. Et on était dans une église catholique, hein, parce qu'une jolie église, ça résonnait merveilleusement. Bon, c'était très laïque. Hein, et devant tout le monde, il y avait Jésus sur la croix. Il était vraiment là, dans un grand besoin, je dirais. Et j'ai dit, mais c'est dommage, parce que c'est comme si les gens ne le voyaient pas du tout. Enchanté, petit papa Noël. Il y avait tellement de Jésus avec les stations de la croix qu'on ne le voyait pas. Il était partout dans cette église, mais on ne le voyait pas. Les images de Jésus, mais on le voyait. Les gens ne le connaissaient pas. Mais qui est celui-ci? Pour eux, c'est celui qui est toujours crucifié, dans le besoin. Oh, pauvre nous, pauvre nous, pauvre nous, pauvre Jésus, pauvre. Ils vont mieux prier Marie, elle est beaucoup plus puissante que Jésus. Mais non! Mais non! Qui est celui-ci? Est-ce que tu connais celui-ci? Parce que la clé pour toutes ces prières, c'est l'intimité. Dieu ne répond pas aux besoins. C'est pas juste, il dort même. Ils s'en foutent des besoins. Vous pouvez pas mettre la main sur le dos de Jésus en disant, voilà Jésus, regarde tous ces besoins. Tu sais, j'aime pas les réunions de prière comme ça. Tu sais, on pense que si on comble Jésus de besoins, il va céder. Il dort. Allez, tu dois répondre, regarde tous ces pauvres gens. C'est comme si on est plus gentil que Jésus. Lui, c'est le grand dur dans le ciel. Mais nous, on est plus gentil que toi, Jésus. Parce que nous, on voit ses besoins. Regarde, regarde, notre âme qui pleure et toi qui t'en fous, là. Mais quel blasphème. Quel blasphème. Et c'est l'intimité. Parce que Jésus, son langage, c'est la foi. Il ne veut pas entendre votre peur et votre incrédulité. Il va vous aider avec ça. Mais c'est un plus grand péché qu'on ne pense. C'est quelquefois on pointe le doigt au beaucoup de péchés sexuels. Mais la peur, ça va quand... Combien de mois est-ce que je peux vivre dans ces choses-là? Ça va au début. Mais si on traîne une vie religieuse pendant des années, comblée par la crainte et l'incrédulité, mais... C'est là, il faut demander à Jésus, Seigneur, je veux vivre ici. Le max dans ma journée. Donc en disant ça, je ne veux pas vous choquer, je lutte avec ça. Mais je pense que c'est une chose de base, parce qu'on est tellement religieux quelquefois. On est tellement religieux quelquefois. Et on a un petit Jésus. Mais là, Jésus, il est grand. Alors là, je vais terminer, là, je vais prier qu'on va vivre la galène, et pas la galère. Et peut-être vous avez des vagues. Peut-être vous avez des vagues dans votre vie. Et c'est, ah, sauve-moi Jésus, je vais mourir. Allez, avant de prier ça. Prie ça une fois et après réfléchis. Et écoutez Jésus qui dit, allez, je veux vous former avec cette circonstance-là, avec ces vagues. Mais est-ce que vous avez une parole? Qu'est-ce que je vous dis dans cette circonstance? Est-ce que vous avez une notion de ma puissance par le Saint-Esprit qui est en vous? Est-ce que vous pouvez persévérer dans une proclamation, dans une prière? Vous allez voir la solution. Parce que Jésus, il ne veut pas lui-même être toujours la solution. Ça, c'était pour les gamins, là, quand les apôtres étaient en formation. Il faut que ça soit les disciples eux-mêmes qui dorment. Hein, c'est pas, et parce que Jésus, à l'époque, n'était pas dans leur cœur. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Et Jésus peut se lever en nous par le Saint-Esprit. Donner des ordres. Et donc voilà. Seigneur, ce matin, Seigneur, aide-nous à percer cette ligne de besoin. Seigneur, nous ne voulons pas être prisonniers par des traditions d'hommes. Nous ne voulons pas être prisonniers par l'esprit de ce monde qui est incrédule et peureux, Seigneur. Et je sais que ce n'est pas un petit esprit. Je sais que ce matin, je touche des choses profondes dans la lutte spirituelle. Parce que Satan a tellement peur que ses disciples saisissent la vraie vie intime avec Jésus. Et donc, Seigneur, nous voulons quitter nos galères. Nous voulons changer de perspective ce matin. Change mon perspective, Seigneur. Je veux voir. Change ma façon de regarder. Change ma perspective, Seigneur. Aide-moi à voir la puissance. Aide-moi à voir ta parole pour ma sœur Constance, pour mes sœurs Constance. Et donne-moi la persévérance de ton royaume, Seigneur. Oh, Jésus, je veux ta personne. Je veux ta personne. Je veux une relation. Je veux connaître qui est celui qui donne des ordres au vent et aux vagues. Seigneur, incarne-toi en moi encore plus ce Noël, Seigneur. Seigneur, je bénis cette église. Que cette église puisse faire encore un pas pour traverser la ligne du besoin. Que quand les gens viennent ici, ils trouvent une parole, une puissance, une persévérance pour les emmener vers un nouveau départ, Seigneur. Seigneur, devant toutes les vagues de ce monde, donne-nous une parole. Seigneur, montre-nous aussi les choses pour lesquelles nous pouvons prier. On ne peut pas prier pour tout. Il y a trop de vagues dans le monde. Mais montre-nous nos propres vagues à gérer. Seigneur, oh Père, bénis cette assemblée. Bénis chaque personne ici aujourd'hui. Qu'ils vivent vraiment cette paix, cette galène au travers des vagues. Et qu'ils vivent cette galène à Noël, dans les vagues familiales, dans les vagues financières, dans des vagues sociales. Seigneur, donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen.